Canadien remporte le match de façon décisive 5-3. Une belle victoire où tout a fonctionné pour l'équipe de Martin Saint-Louis. C'est parti, bon match!
Salut mesdames, messieurs, encore une fois la bienvenue à votre balado de hockey favori. Bon match, salut Danny.
Hey, salut Martin.
Épisode numéro 19 maintenant. On a plusieurs choses sur la table, Danny, avec la fin de la saison du Canadien. On a eu l'opportunité de, bien sûr, évaluer l'équipe. On a regardé ça comme il faut. Le Rocket de Laval est dans une poussée pour les séries. Puis ça nous permet de voir qui sont les joueurs qui performent bien chez le Rocket et qui sont des candidats vraiment logiques et idéaux pour occuper un poste, et pas juste pour remplir un chandail, Danny, mais pour améliorer le Canadien.
Ben non, mais c'est... Puis on a eu l'occasion, là, lors de notre dernier match, en onde, d'avoir Bruno Gervais avec nous, qui est à la couverture du Rocket, qui est l'analyste. Donc, on a eu quand même une assez bonne converse, Martin, puis ça nous a permis de faire le tour du jardin, puis de voir... Mm-hmm. Quels étaient les joueurs qui étaient les plus probants. Qui frappe à la porte, dans le fond, parce que honnêtement, là, on est tous à la même place, mais les partisans, nous aussi. De quoi aura l'air le Canadien l'an prochain? Je sais que la saison n'est pas finie. Il faut quand même terminer celle-ci, mais on sait très bien que les matchs qui restent, avec malheureusement avec les blessures, etc. Donc, on est ailleurs. On veut savoir, on se pose la question, est-ce que des gars à Laval qui vont pouvoir aider le Canadien à être une meilleure équipe de l'an prochain?
Tu viens-tu de la chanson de Gilbert Bécaud, Et maintenant, c'est un peu là que les partisans sont rendus. Et maintenant. C'est vrai que la saison n'est pas finie, mais je pense que les amateurs ont besoin un peu de croire en quelque chose, Danny. Croire que l'an prochain, l'équipe va s'améliorer. Puis comme le Canadien n'ira pas chercher 5 agents libres l'été prochain, puis il ne fera pas 12 transactions, là, je fais une caricature, il va falloir que ça provienne un peu de l'interne. Un peu de l'externe, on en a parlé dans certains épisodes précédemment, mais surtout de l'interne, là, ça va être là que ça va payer si le Canadien s'améliore.
Ben, c'est sûr qu'au départ, tu as des joueurs sur qui tu as bâti ou tu as fondé de l'espoir, ben là, c'est le temps. Et puis moi, je pense que dans les joueurs qu'on a vus, nous, passer à Montréal, puis qui retournait à Laval, puis bon, problème de blessure et tout ça. Moi, Emil Heinemann, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Puis c'est drôle parce que justement, on en a parlé. Bruno nous a parlé de lui comme probablement le joueur le plus près de la Ligue nationale dans le groupe actuellement avec le Rocket.
C'est intéressant parce qu'au camp, Danny, là, c'est exactement ce qu'on avait comme portrait. Mm-hmm. Mais il est arrivé une blessure dans le cas de Heinemann. Ça fait deux fois. C'est deux camps d'entraînement où il est arrivé des blessures. Mais c'est vrai que quand il est en santé, il a le profil, lui, d'aider l'équipe.
Ouais, ben moi, écoute, premièrement, c'est un gaucher. Donc, on sait qu'il y a de la place. Il faut créer de la compétition avec Joshua Roy à gauche. Tu peux pas juste dire à ce jeune homme-là, tu t'en viens, puis ta place est faite, là, t'as joué. Écoute, il n'a pas joué assez pour dire que, je dirais pas le tapis rouge, là, ce serait exagéré, mais tu sais que la place est garantie sur un des trois premiers trios. Puis moi, Anaman, ce que j'aime de lui, c'est que c'est un gars qui est costaud. T'sais, amène une nouvelle. Il est rapide, puis il est costaud. Donc, lui, là, en termes d'échec avant, de mettre la pression sur l'adversaire, je pense qu'il est capable de faire un assez bon travail. Puis, je sais pas si je m'étire un peu trop, là, mais je me pose la question en regardant ses affaires, en me disant est-ce qu'il peut devenir le prochain Arturi Lehkonen? C'est un genre toujours, un peu différent, mais.
C'est toujours la comparaison qu'on a faite, Danny.
Ouais.
C'est avec lui, là, dès que le Canadien, parce que le Canadien l'a acquis dans une transaction, là, c'est venu des Flames de Calgary et Emil Heinemann pour Toffoli. Et c'est toujours ce qu'on a dit. Puis lui, on y en a parlé souvent de ça. Puis moi, je trouve le vrai, c'est d'abord leur intelligence au jeu. Ça se ressemble pas mal. Puis l'autre chose qui me frappe par rapport à Heinemann et ce qu'était Lehkonen, c'est le courage, Danny. C'est jamais de faire de compromis pour l'échec avant, pour aller le long de la rampe, pour aller travailler sur une rondelle quand tu sais que ça va peut-être faire mal. Moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux quand on regardait les deux joueurs, Heinemann et ce qu'on avait comme profil, comme évaluation de Lekkonen.
Mais là, si Heinemann s'amène à Montréal pour au bout de 5-6 ans, parce que lui aussi, c'est un deuxième choix. Là. Lui aussi, c'est à peu près le même genre de joueur. Plus,
oui.
En termes de statut, je veux dire. Dans l'identification, son année de repêchage en 2020, tu vois que c'est un gars qui était dans cette zone-là. Il a été repêché par la Floride. Après, il s'est retrouvé à Calgary. Puis, comme il était en Europe, il n'est jamais venu jouer en Amérique du Nord. À un moment donné, on dit, bon, là, tiens, voilà un joueur qu'on peut échanger. Puis le Canadien en a profité. Puis je pense, moi, que c'est un gars qui peut vraiment rentrer dans le groupe des 9 premiers attaquants.
Sais-tu l'affaire avec ce genre de joueur-là, Danny? C'est que, comme c'était le cas à l'époque pour Arturi Lekkonen, comme le Canadien avait pas assez de bons joueurs, offensifs. On le plaçait avec des joueurs offensifs, mais on avait l'attente qu'ils deviennent ce qu'ils pouvaient pas devenir.
Non.
C'est-à-dire un joueur ultra offensif avec une production de 25-30 buts puis des buts spectaculaires. Mais au Colorado, tu le places avec des joueurs offensifs, tu le mets à côté de McKinnon ou Rantanen, puis là tu te dis, envoie mon Arturi, ramasse les rondelles le long de la rampe, va te salir le nez, puis il fait très bien ça. Alors qu'à Montréal, on l'aurait placé dans un rôle comme ça, puis là, les gens auraient dit, ben oui, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est pas capable de marquer des buts autant, c'est pas un bon joueur offensif et tout. Il se rachetait en série. Ouais. Pis ça a toujours été sa marque de commerce, les séries. Puis ça va avec son courage, Danny. Les gars qui se rachètent en série, la plupart du temps, c'est des gars qui jouent sans compromis et avec courage. Là où c'est difficile de jouer, quand les règlements sont étirés comme l'élastique, là, puis qu'il n'y a plus de place, sont les joueurs courageux qui sortent en série.
Ben, moi, tu sais, mon indicateur, c'est à 55. Si le gars, il produit à 55, il te donne des points, tu sais qu'il va être bon dans les séries. Je regarde actuellement, mettons, on va prendre dans les joueurs qui ont quand même des chiffres intéressants à 55 chez le Canadien, il faut que tu parles de Jake Evans. Tu sais, parce que lui, c'est un joueur justement qui n'en fait pas de compromis. Ça lui a causé des problèmes. Il était blessé. Là, je pense qu'il a appris à se protéger avec le temps.
Oui.
Mais tu sais, c'est un joueur justement qui va produire à 55, qui va faire produire ses ailiers. Après ça, ben là, les ailiers, c'est eux autres à concrétiser. Là, encore hier soir, écoute, il a mis ça sur la palette à deux reprises directement dans l'enclave. Anderson, il n'a pas été en mesure de compléter. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, là, lui, c'est un joueur de centre qui fait ce travail-là. Dans le cas de Dynaman, ben, écoute, moi, tu sais, c'est sa polyvalence. Bruno a dit, c'est comme un couteau suisse, là. Il fait un peu toutes sortes de choses. Ben, Lekkonen, c'était ça. Puis moi, je pense que c'est un gars qui va être capable de, d'après moi, qui va avoir un petit peu plus de touche au filet. Il va avoir une meilleure productivité pour une raison. Il est plus gros, puis il est plus fort. Pas qu'il va plus ou parce que Lekkonen, il est courageux, tu l'as mentionné tantôt.
Ouais.
Puis c'est,
ça reste
il y allait
à voir,
dans mais dans l'enclave, là, ouais. il va y aller plus. Alors, écoute, on verra bien parce que Lekkonen, lui, il est parti de l'Europe. Il s'est emmené en Amérique du Nord, puis il a joué pour le Canadien de Montréal. Heinemann a fait un passage à Laval. Fait que lui, tu sais, honnêtement, lui, il va avoir besoin d'un agent d'immeuble pour passer de Laval,
oui.
De Laval à Montréal. Parce que c'est sûr que moi, je pense que l'an prochain, c'est un des gars qui va avoir à déménager. Là. C'est, si je regarde ça, lui, il devra appeler Remax et dire trouvez-moi un appartement dans Montréal parce que...
Oui, c'est Laval-Montréal.
J'ai fait l'équipe.
C'est trop long. Si tu veux arriver à temps au meeting d'équipe puis aux pratiques, t'es mieux de te rapprocher.
Est-ce que ça peut être le même agent?
Ah, ben ça peut être le même agent, mais sais-tu quoi? L'important avec les agents Remax, c'est de tomber sur celui qui connaît bien le marché, qui connaît bien son marché. Puis ça, chez Remax, vous allez être en bonne main quand vous allez contacter ces gens-là si vous changez de marché comme Heinemann pourrait faire.
Ouais.
Il y en a d'autres, Danny, qui pourraient changer de marché aussi, sans changer de marché immobilier, mais changer de quartier. Puis là, je veux qu'on s'attarde à Logan Mailloux.
Ouais.
Logan Mailloux fait pas l'unanimité. Puis là, je m'explique. Mm-hmm. Il fait pas l'unanimité parce que il y a des points. Écoutez, Logan Mailloux, là, à sa première année professionnelle, c'est le troisième pointeur du Rocket de Laval. Il a joué 68 matchs, puis il a 44 points, dont 14 buts. C'est indéniable quand tu fais ça à ta première année pro, c'est parce que t'es solide puis que t'as du potentiel. Alors lui, le potentiel est là. Quand je dis qu'il fait pas l'unanimité, c'est toujours, puis Bruno nous en a parlé lors de notre reportage contre les Rangers dimanche soir, c'est un peu ses prises de décision, Danny. C'est que il est audacieux, parce qu'il veut créer de l'offensive, puis des fois, les prises de décision, puis même quand c'est le temps de jouer un peu robuste, c'est pas toujours à point. Puis ça, ça peut coûter cher dans la Ligue nationale quand t'es pas un gars qui prend des bonnes décisions des fois.
Mais souvent, les joueurs, Martin, offensifs, pardon, ont besoin d'un temps pour comprendre que le jeu dans la Ligue américaine, puis ensuite dans la Ligue nationale, que le jeu est beaucoup plus serré, puis on va te faire payer tes erreurs beaucoup plus cher que chez les juniors. Ça, c'est sûr. Les joueurs sont meilleurs, sont plus rapides, ils vont dans les zones critiques sans compromis, beaucoup plus. Tu sais, dans le junior, le gars qui a 19 ans, là, le joueur de 17 ans, même s'il y a bien de la vigueur, tout ça, il reste que physiquement, il y a un écart entre les deux. Ah. Là.
Puis si t'as le physique de Logan Mayhew, Danny, là, il y a pas beaucoup de joueurs de 17 ans qui vont t'enlever la rondelle. Là.
Non. Écoute, l'an passé, là, il pesait 210 livres. Là, il était à 220 livres, mesure 6 pieds 3 pouces. Écoute, c'est un gros joueur. Et chez les juniors, c'est un gars qui marquait pratiquement un point par match comme défenseur. Pratiquement 53 points, 59 matchs. Mais c'est pas là son enjeu. Son enjeu, c'est la gestion et la constance dans son jeu. Puis c'est pour ça que lui, c'est mi-figue, mi-raisin. On se dit, OK, il peut jouer dans la Ligue nationale parce qu'il domine offensivement dans la Ligue américaine. Ouais. Mais s'il arrive dans la Ligue nationale puis il joue de la même façon, c'est sûr qu'il va avoir des enjeux. Il va avoir des problèmes. Il y a des soirs où il va trouver ça difficile. Mais honnêtement, je pense que l'an prochain, on va être rendu là. T'sais, pour lui permettre de passer à l'autre niveau, il faudra l'exposer. Il faudra l'amener dans cette situation-là de Ligue nationale. Puis, tu sais, on en parle souvent, toi et moi, puis on en a parlé. Les gens qui nous écoutent régulièrement le savent. Il n'y a pas de cachette. Ce gars-là, il doit jouer à peu près 150 matchs à 200 matchs dans la Ligue nationale avant qu'on ait le portrait final de sa croissance puis de son développement. Quand je parle de croissance, je parle bien sûr sur le plan technique, là, parce qu'à 6 pieds 3, 220, la croissance, c'est pas le fini.
l'affaire avec lui, Danny, c'est que, tu sais, si on pouvait y donner une partie des jambes de Mike Matheson pour qu'il puisse patiner peut-être un peu plus vite, ça l'aiderait probablement à faire la transition avec la Ligue nationale. Mais comme c'est pas un aussi bon patineur, il est pas mauvais là, sur patin, là, mais comme il est pas aussi rapide qu'un gars comme Matheson, il va être obligé de compenser avec sa tête, avec ses lectures de jeu, puis des fois retarder ou en tout cas étouffer son audace un petit peu, pas trop. Parce que quand même, si tu veux qu'il fasse des points, faut qu'il reste audacieux un peu, mais pas trop, parce qu'il est pas aussi rapide que Matheson, par exemple, pour donner une image dans la tête aux gens. Là.
Oui, mais tu sais, c'est en même temps, je veux te dire, l'autre soir, on a vu Barron. Barron va bien, là. Il a joué un bon match. Il a de la vitesse, il a un flair offensif. Est-ce qu'on va préférer Mayhew à lui? Moi, je pense que oui, là, parce qu'en plus, Mayhew, il est beaucoup plus costaud. Ouais. À droite, là, Kovacevic, même affaire. Fait que là, tu sais, dans le fond, tu vas avoir une décision à prendre. Tu rentres Mayhew, lequel tu sors?
Tu sais, c'est une bonne question.
Tu sais, tu dis, parce que là,
Danny,
à un moment donné...
Danny, il faut que Mayhew sorte quelqu'un. T'es pas d'accord? Tu sais, parce que si tu rentres Mayhew, faut t'en sors un. Mais il faut que Mayhew soit assez bon, l'automne prochain, pour sortir quelqu'un.
Oui, mais quand je dis, faut que t'en sortes un, c'est que... L'équation est assez facile à faire parce que, pour moi, là, Mayhew est un joueur qui a plus à offrir que les deux gars que je t'ai mentionnés. Il a plus à offrir que Kovacevic, il a plus à offrir que Barron. Donc moi, je reviens là-dessus parce que je t'en ai parlé souvent. Lors du repêchage, où on va être d'ailleurs ensemble à Vegas, faut pas s'attendre à un coup de circuit, mais il faut s'attendre à avoir du mouvement de personnel.
Oui, puis écoute, cette place-là va peut-être venir de là. D'ailleurs, tu sais, les situations moches que vivent Jack High et Goulet c'est moche pour eux, parce que tu souhaites pas que les gars soient blessés, bien évidemment. C'est moche pour le Canadien, Danny, parce que sans ces deux gars-là, ça a brisé un équilibre assez fragile chez le Canadien de Montréal, puis on l'a vu dans les matchs où ils ont pas été là, puis Dieu sait qu'il y a d'autres matchs d'ici la fin où ils pourraient être absents. Mais il y a une affaire qui est positif derrière ça, c'est qu'on va exposer Barron. Mm-hmm. Puis là, Barron va être vu. Il va être vu par des gens dans un contexte de Ligue nationale, dans un contexte où les matchs comptent tous, à part pour le Canadien, mais pour les autres, pour les adversaires du Canadien. Puis ça, c'est une bonne situation si tu veux en arriver à faire ce que tu viens de dire.
Ben aussi, c'est Barron, on peut parler qu'on le monte pour l'échanger, mais on peut aussi parler que on le rentre dans l'alignement par la force des choses pour voir aussi où il est rendu.
Parce qu'il où il est rendu, mais en même temps, tu sais, les compétiteurs regardent où il est rendu. C'est ça mon point.
Oui, oui. Non, mais je te rejoins, mais...
C'est ça qui est intéressant, là.
C'est pour le Canadien aussi, dans le sens que... Est-ce que le Canadien va préférer se départir de Barron ou de Kovacevic? Tu sais, il va avoir...
Kovacevic n'a pas énormément de valeur, Danny, là.
Mais il y en a plus qu'il y en avait. Il y en a plus qu'il y en avait parce qu'il joue. Puis pour moi, c'est un autre Brad Kulak. C'est un gars qui est arrivé dans la Ligue nationale. Ça a pris un peu de temps avant d'arriver à échéance. Là, il est là. C'est un joueur de Ligue nationale qui ne coûtera pas cher, qui va intéresser des équipes parce que, justement, tout est une question d'argent maintenant. Puis avec lui, c'est sûr que c'est un joueur qui... Tu peux pas le mettre au cœur d'une transaction.
Non,
mais
c'est...
dans la transaction, il donne une plus-value à ton offre. On veut dire ça.
Moi, je pense que Barron est un peu plus intéressant, Danny, parce qu'il y a encore l'étiquette du choix de première ronde. L'autre, c'est un survivant. Alors, tu sais, si tu veux monnayer l'étiquette du choix de première ronde, là, c'est-à-dire que c'est quand même un gars chez qui on a vu fin de première ronde, tu vas me dire, là, mais c'est quand même quelqu'un chez qui on a vu un certain potentiel beaucoup plus grand qu'avec Kovacevic. Mais en tout cas, l'occasion est belle pour les deux. Parce que là, on est capable de les voir, puis non seulement nous autres, mais les autres aussi. Je reviens un petit peu brièvement à l'intégration éventuelle de Logan Mailloux.
Ouais.
C'est sympathique. Puis là, on parle de Lane Hutson aussi. Mais tu sais, Danny, il faut que ces gars-là aident le Canadien à gagner. Puis je te transmets une question qui m'a été posée par quelqu'un récemment qui est venu à Montréal pour le match des Maple Leafs face aux Canadiens et qui me disait « Qui sera le top 4? Qui seront les joueurs du top 4 du Canadien l'an prochain à la défense? » Ben, c'est facile. Caden Goulet, Mike Matheson, puis là, David Savard. OK, David, là, c'est le gars le plus... honnête qu'on connaît, dédié à l'équipe. Mais sais-tu, le Canadien, vas-tu vraiment s'améliorer si David est dans le top 4? Après ça, brasse-les les noms, là. Après ça, Mailloux. Après ça, Jack Eye. Après ça, Struble. Après ça, Hutson. Tu sais, on nomme un paquet de gars, Danny, puis on a de la difficulté à identifier quelqu'un qui compléterait un top 4.
Ben, c'est normal parce que l'équipe est en progression, puis le top 4, il va se définir un peu mieux quand tu vas avoir des joueurs qui vont être capables de... Moi, je te le dis là, que Mailloux, quand il va embarquer chez le Canadien de Montréal, il va jouer top 4, il ne jouera pas 5-6.
Alors, on n'est pas prêt d'avoir un vrai top 4 encore, Danny. On a un top 3, puis top 4, ça va attendre un peu.
Oui, puis si David glisse un peu dans la hiérarchie...
Oui. Ce qui serait logique. Là, pour,
ça va être le signe qu'on est en progression.
C'est assurément.
Parce que, à un moment donné, la qualité de tes premiers joueurs définit un peu la force de ton équipe. Tu sais, on vient jouer là, coup sur coup, là, Toronto et les Rangers.
C'est pas un beau laboratoire, ça?
Ben là, qui a battu le Canadien? Là? Tu sais, c'est les meilleurs joueurs et... Puis là, le cliché, les meilleurs doivent être les meilleurs. Ça, c'est une chose,
c'est,
là,
mais comme ça.
C'est comme ça. Tes bons joueurs, est-ce qu'ils sont assez dominants? Puis moi, je pense que Mailloux a plus à offrir. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu... Puis pour ça, tantôt, je disais, il faut que tu fasses ton lit. Tu vas avoir dans ta tête, tu laisses les joueurs faire... créer, faire la compétition puis de justifier ou de gagner leur place. Mais tu sais très bien, quand tu regardes les affaires, que, bon, au départ, là, Mayhew, ben, il est en avant de Barron, puis il est en avant de Kovacevic, puis il est en avant de Savard.
Ce qu'il faut que tu espères, ce qu'il faut que tu espères, Danny, n'est-ce pas, c'est que Mayhew ou même Hudson, c'est qu'un de ces jeunes-là connaisse la progression, je dirais, fulgurante que Juraj Slafkovský a connue pour pouvoir dire « ça, c'est un vrai top 6. Ça, c'est un vrai gars de premier trio. » Alors, si on est capable de voir une progression comme ça, bien là, on parle d'un premier choix au total, là. Un premier choix au total. Tu sais, il faut jamais oublier que Slafkovský, sa progression fulgurante cette année, s'attache au fait qu'il a été repêché premier au total. Ce qui n'est pas le cas des autres gars qu'on nomme.
Ouais, mais tu sais, moi, j'ai plus de difficultés à faire cet exercice-là avec les défenseurs qu'avec les attaquants.
Mais le parallèle est intéressant, Danny. Tu sais, un top 4... Quand un gars qui est capable d'être top 4 à sa première année dans la Ligue nationale, là, tu commences à comparer ça à un gars qui est pris en première ronde, n'est-ce pas? Habituellement,
ouais,
si tout se passe bien.
Oui, mais tu sais, mettons, là, prenons la liste des défenseurs qui dominent dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Puis prenons une situation où le gars joue pas nécessairement dans une bonne équipe. Là. OK? Bon. Rasmus Dahlin. Lui, là, il est arrivé à Buffalo en 18-19. Il a 44 points. Lui, il a 20 points en avantage numérique, 5 buts. Lui, là, il est arrivé, puis tout de suite, bang, il a contribué. Mais lui, il fait 6 pieds 3, puis il pèse 204 livres.
Oui, puis c'est un top 3 d'année.
Oui.
Un top 3 au repêchage.
Les Notson, je ne suis pas sûr qu'à court terme, à cause de la dimension physique qui va être aussi dominant que, par exemple, Kyle Makar a pu l'être. Mm-hmm. Tu sais? Mais une chose est sûre. Moi, je pense que Mayhew, dans la dimension offensive qu'il apporte, le gabarit, etc., c'est le joueur qui est le plus près de rentrer et de éventuellement, pas au début de l'année, mais très rapidement durant la saison, de faire glisser David à droite. Puis comme ça, ben David est plus dans sa chaise, l'expression.
C'est
là.
Ça.
Puis...
Et le meilleur comparatif qu'on pourrait pas avoir pour une situation qui pourrait bien tourner pour Mayhew l'an prochain avec l'équipe, pour venir combler cette chaise-là, pour là avoir ce vrai top 4, là, c'est ce qui est arrivé avec Piqué-Souban, Danny. Piqué-Souban a joué dans les mineurs. Guy Boucher a essayé d'y montrer de ne pas faire des revirements, du moins pas trop de revirements. Puis on a essayé de l'encadrer avec tout ce que ça comportait à l'époque. Mais quand il est arrivé chez le Canadien, il a rentré dans le top 4.
Oui.
Et Piqué-Souban est un joueur de deuxième ronde. Repêché en deuxième ronde parce qu'il y avait tellement de questions dans les airs à propos de lui qu'il a glissé en deuxième ronde. Et Logan Mayhew, pour sa façon de jouer, je dis pas qu'il ressemble à Piqué, mais on soulevait les mêmes questions sur son jeu défensif qu'à l'époque avec Piqué. Mm-hmm. Alors, si Mayhew est capable de faire ce que Piqué a fait, là, le Canadien va être en business.
Parce que moi, là, je te le dis, il faut que les matchs joués dans la Ligue nationale l'an prochain commencent à payer pour le Canadien. Dans le sens que, bon... On a pris, je pense, une bonne décision dans le cas de Mayhew, mais l'an prochain, c'est super important que ce gars-là commence à goûter à la Ligue nationale puis à faire les ajustements nécessaires. Parce que là, dans la Ligue américaine, je regarde sa production, je regarde son temps de jeu, etc. Il est arrivé au bout de... Là, il revient comme dans le junior.
Ah, il est dans l'élite de cette ligue-là. Là.
Puis là, il commence à avoir des petites absences. Il fait des... Ouais. Quand je dis mentalement, là, il fait quelque chose qui n'a pas d'allure, mais... Donc, la constance, il va l'avoir quand il va arriver dans le niveau optimal. Là où on ne lui donnera pas cette latitude-là, parce qu'à chaque fois qu'il va faire ce genre d'erreur-là, ça va coûter très cher. Et là, face à ses coéquipiers, face à ses pairs, il va être redevable. Ça va être une autre histoire.
Et maintenant, Danny, on va s'arrêter. Puis on va poursuivre parce qu'il y a un dernier point à aborder avec le Canadien de Montréal, puis on en a touché au cours des derniers jours, c'est le duo de gardiens. Puis je veux qu'on vienne brièvement là-dessus, puis on va aussi aller ailleurs dans la Ligue nationale. On a finalement été capable, toi et moi, de regarder Matt Rampe. Est-ce que ça valait la peine d'en parler autant? On va en parler dans quelques instants. Nous sommes de retour au balado. Bon match, Danny. On a effleuré le sujet des deux gardiens. Puis là, je trouve qu'on a un laboratoire pas mal intéressant, les derniers matchs. Ouais. Parce qu'on a une situation où on les a vus tous les deux. On les a vus dans des deux en deux. On les a vus contre des bons clubs. Chacun, Montembeau, Primo, ont joué contre des bons clubs. Est-ce que c'est sécurisant pour l'an prochain? Est-ce qu'on regarde ça puis on dit « Ouais, c'est vrai ». On va vraiment avoir un bon duo de gardiens parce que c'est beau de le proclamer, puis c'est beau de dire ben échangeons Allen, les deux autres sont corrects, puis ça va bien aller, mais dans le concret, est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent de voir ça?
Ben moi je pense que oui. Écoute, les deux gardiens s'échangent un peu la pole position, je peux prendre l'expression, puis c'est correct, tu sais, parce que l'équipe du Canadien, c'est une équipe qui est en devenir, puis ils ont des lacunes en défense. Même c'est si leur défensive s'est améliorée au niveau des chiffres, là, il reste que c'est une équipe qui a vraiment besoin de deux gardiens de but.
Ouais.
Puis, ils sont dans une meilleure position que bien des formations qui actuellement sont devant eux.
Et puis, sais-tu quoi, Danny? Ils ont besoin de deux gardiens de but parce qu'ils sont dans une division très forte.
Ah oui. Ben oui, puis c'est que faut être conscient que actuellement, il y a des puissances offensives dans la Ligue, puis ça va être difficile pour le Canadien de faire face à ces équipes-là. Parce que les équipes montantes, là, Ottawa, Buffalo, Jersey, ces équipes qui ont quand même du punch en attaque. Mais moi, je trouve qu'ils sont probablement moins bons que le Canadien devant le filet. Alors ça devrait aider le Canadien l'an prochain dans cette situation-là. Puis en ce qui concerne la question numéro 1, numéro 2, là, tu sais, je veux dire, il y en a un qui va jouer peut-être 60% des matchs, puis l'autre 40%. De la manière que ça se passe actuellement, là, ce sera pas on n'aura pas un 70-30. Là. On n'aura pas gars qui joue 50, presque 60, puis l'autre qui joue 25, maximum 30. On n'aura pas ça. Je pense qu'on va être plus dans 40.
Il n'y a pas assez d'écart entre les deux.
Non, en tout cas, à ce point-ci, peut-être l'année prochaine, ça va être différent qu'en entraînement, etc.
Ouais.
Mais moi, je suis assez content de voir que Primo fait ce qu'il a à faire puis met une forme de pression sur Samuel pour créer un niveau de compétition. Puis en même temps, ben, on se rend compte que c'est probablement ce qui va aider Samuel parce que, je sais pas, j'ai comme un feeling, Martin, qu'il y a de la misère à apprivoiser les attentes qui viennent avec le rôle de numéro un.
Écoute, je me demande, Danny, s'il réagit complètement bien à cette situation-là.
Oui.
On a donné l'exemple, il y a une couple de semaines, du gardien de but Herson à Philadelphie. Il amène les Flyers dans le portrait des séries. Là, il arrive un gardien russe de nulle part. Puis là, il est tout mêlé. Puis alors qu'il devait gagner contre le Canadien, il gagne pas. Là, la chaise est libre, un petit peu de chaise musicale. C'est sûr que Samuel joue encore pour une équipe qui a une défensive un peu poreuse. Puis là, t'as enlevé Goulet puis Jack High dans les derniers matchs, c'est devenu encore plus poreux. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'analyse de son travail individuel, Danny, il a donné parfois un petit peu plus de mauvais buts ou de buts où il aurait pu être un peu mieux que ça.
Ben oui, puis dans le dernier droit, là, depuis en tout cas la transaction, là, ses chiffres ont diminué en bas de 900. Ça fait que ça, c'est pas bon. Là. T'sais, tandis que pour Primo, c'était le contraire. Donc, Primo avait moins joué avant. Là, whoop, c'est lui qui a repris le haut du pavé puis qui a des chiffres beaucoup plus intéressants. Là. Mais en même temps, là, on est dans une situation où le Canadien ne gagne pas beaucoup. Fait que il faut aussi garder en perspective ces éléments-là puis se dire regardez pas juste la victoire, la défaite, pas juste le pourcentage d'efficacité, mais la qualité des buts. Des buts donnés. Ça fait que. Mais moi, ce que je tiens à mentionner, je te l'ai dit hier, là, puis je le répète, C'est une bonne affaire ce qui se passe devant le filet. Puis c'est une bonne chose que Primo soit à son meilleur. Parce que l'an prochain, si le Canadien veut améliorer sa situation, passer de la zone des 70 points à monter en haut de 80, là, puis d'être dans le... Mettons, être comme les Pingouins cette année, là, autour de 85, là, puis de se battre pour une place en série, bien... Je te le dis, on va prendre les deux gardiens, ça c'est sûr.
Oui, absolument. Puis la plupart des équipes qui ont réussi à le faire, Danny, là, ils ont un tandem de gardiens. Moi, je pense que le modèle Vegas puis le modèle Boston, c'est deux modèles vraiment intéressants à copier pour le Canadien. C'est,
je te donne un chiffre là, que un des membres de l'organisation du Canadien m'a partagé. Là. La moyenne dans la Ligue nationale là, des deux matchs en deux soirs, là, c'est 7 par équipe. Okay? Le Canadien en a eu cette année, va en avoir, quand la saison va être complétée, va en avoir 11.
Ouch!
Okay. T'es deux gardiens, là, quand t'as 11 matchs consécutifs, t'sais, deux en deux, c'est vraiment important. C'est 4 de plus, là, c'est beaucoup. 4 à la fin, là, quand on va regarder le calendrier, on va regarder le classement, tu vas en avoir des équipes que c'est 2 points, c'est 3 points. C'est peut-être le gardien de réserve qu'ils n'ont pas qui fait qu'ils ne sont pas capables d'entrer en série. C'est fou.
Dans plusieurs équipes, c'est ça, Danny. C'est le gardien de réserve qu'ils n'ont pas puis qui fait en sorte qu'ils croupissent au lieu de passer à l'autre vitesse. Puis ça, moins... Le Canadien va être bien nanti, en tout cas potentiellement avec ça. Ouais. Il faut qu'il s'apprivoise un petit peu. On va s'arrêter, Danny, puis au retour, on va aller parler de Matt Rampe. Mais on va essayer de faire évoluer le débat un peu, parce que là, on l'a vu comme il faut. Le voir à la télé, c'est une chose, mais le voir en personne, c'est une autre affaire. Alors, on va revenir là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine de faire tant de bruit pour... Le joueur de hockey, Matt Rampe, pas sûr. Bon match se poursuit maintenant avec une excursion ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, dans la planète de la Ligue nationale, Danny. La planète de la Ligue nationale a été meublée au cours des dernières semaines par une grosse, grosse comète. gars de 6 pieds 7 pouces qui a fait beaucoup parler de lui. Pour pas les bonnes raisons. Pour pas les bonnes raisons, parce qu'il fait beaucoup plus parler de lui pour ses batailles que pour ce qu'il peut être comme joueur de hockey. Mm-hmm. Puis moi, j'avais hâte de voir les Rangers avec lui dans l'alignement. Ouais. Parce que quand on avait vu les Rangers la dernière fois, il était pas là. Mm. Il est arrivé après. C'est un phénomène récent, là, Rampe. Là. Faut pas oublier. Là. C'est très récent. Puis honnêtement, Danny... Je me suis demandé, en le regardant, si ce gars-là avait ou même aura un jour un tempo assez décent pour jouer dans cette ligue-là.
Oublie ça. Oublie ça, il n'est pas capable de suivre, lui-là. Tu sais, l'autre soir, là, il, en plein milieu de la patinoire, il a même perdu pied. Contre le Canadien, là, c'est probablement le match où il a le plus joué depuis le début de sa carrière. Là, il est dépassé 5 minutes.
Oui, parce que le coach.
6 minutes.
Le coach, il a la violette le matin du match, il a dit on aimerait ça le voir jouer un peu, tu sais, puis parce qu'il s'est fait expulser souvent, vite, puis on aimerait ça le voir jouer, puis il est peut-être capable de faire de l'échec avant. Il y a une affaire, Danny, il fait peur.
Ah oui, il fait peur. Mais là, j'espère.
Il fait peur, tu sais, parce qu'il est allé frapper Jordan Harris derrière le filet, là. Puis Jordan n'a pas été capable de rouler sur le coup, là. Il avait la rondelle, puis bon, il, comme on dit, il l'a pris pour l'équipe. Puis ça a fait bang fort. Et c'est tout à fait normal, comme tu le dis, Danny. Mais quand il a essayé de faire ça avec Matheson, il s'est jamais rendu.
Non. Mais tu sais, moi, Martin, là, honnêtement, là, les joueurs qui jouent 7 minutes, 8 minutes par match, puis ils laissent tomber les gants, parce que c'est permis dans la ligue. Au moins, ils jouent, là. T'sais. Je veux dire, ils jouent. Ils sont capables de prendre une présence. Tu leur donnes une certaine responsabilité. D'entre eux, plusieurs sont capables de prendre des avantages numériques. Donc, au lieu d'être 6 minutes, c'est 8 minutes par match, 9 minutes. Donc, ça, c'est correct. Tu sais, dans le sens, c'est correct. C'est correct parce que le règlement n'a pas été changé. Ça fait que c'est correct. Tu vois, tout le monde va en avoir besoin. Mais le gars qui n'est pas capable de jouer... Tu sais, rappelle-toi de John Scott, là.
Ben, j'allais l'amener dans la discussion, Danny, parce que je trouve que c'est le meilleur comparatif. John Scott, il pouvait pas jouer.
Ben non. Il a joué de 2009 à 2015. Mm-hmm. 2016, là, 15 et 16, là, la saison 15-16. Puis il a joué pour 7 équipes différentes. Il faisait 6 pieds et 8. Et il pesait 260 livres. Mais écoute...
Sa meilleure saison dans la Ligue, Danny, là, sa meilleure saison en termes de production, là, c'est 4 points en 38 matchs avec San Jose. C'est une de ses dernières saisons. Ouais. 4 points.
Non, puis tu sais, la blague qu'on l'a amenée au match des étoiles, puis tu sais, tout avec le
ouais, ça, c'était une caricature, là, c'était n'importe quoi.
Ben oui, mais ça expliquait un petit peu là, le désarroi des gens par rapport à ça en disant, ben non, ben écoute, là, c'est... On comprend, là. On comprend. Tout le monde comprend. C'est là, ça existe. Tout le monde comprend. Mais le joueur devrait être capable de prendre des minutes de jeu. Et lui, ben là, oui. En moyenne, il jouait à 6 minutes, 5 minutes par match. Puis personne ne voulait se prendre avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, t'es un géant. C'est que tu dis, est-ce qu'il protégeait vraiment les joueurs de l'équipe? S'il avait été si important pour l'équipe, il n'aurait pas fait cette équipe. Il aurait resté avec la même équipe.
Ben, absolument. Absolument. Puis, tu sais, moi, j'adore aller aux entraînements parce qu'on voit des affaires dans les entraînements. Mm-hmm. Là, moi, j'ai vu Rampe dans une période d'échauffement. Je ne l'ai pas vu pratiquer. Mais ce que j'ai vu dans le match, puis dans la période d'échauffement, Danny, je suis assez sûr que si je transpose ça dans des répétitions de pratique que Martin Saint-Louis impose à ses joueurs, j'essaie de le transposer là, puis il aurait l'air fou. Il aurait l'air fou.
Martin, pratique, pas pratique, on l'a vu jouer, là. Il c'est très difficile pour lui de suivre le rythme de la Ligue nationale. Il n'y a pas d'affaires dans cette Ligue-là autrement que pour ça. Alors, la Ligue a une patate chaude dans les mains parce que il y a comme une recrudescence, puis là, ben lui, il va... écoute, c'est une vedette là-bas, là.
Ben, il signe des autographes, il est populaire. Mais sérieusement, Danny, là, moi, je pense qu'il restera pas à New York, là.
Il va aller ailleurs.
Ben oui, puis là, il y a une équipe qui va vouloir avoir un peu de sensation, là, puis un peu de oomph public. Puis ils vont lui donner une chance, il va se ramasser ailleurs. Puis écoute, John Scott, il a fait une coupe d'adresse, là. Il a fait quelques équipes jusqu'à la fin, là. Le Canadien, ça compte pas parce que semble-t-il qu'on l'a ramassé parce qu'on voulait absolument faire une transaction pour être obligé de le ramasser. Mm-hmm. Alors, j'exclus le Canadien, là, si c'est la vérité qu'on nous a dit à ce moment-là, Marc Bergevin, là. Mais il y a d'autres équipes qui vont lui donner une chance, Danny. Mais moi, je pense que c'est un phénomène qui va passer aussi vite qu'une bonne toune qui arrive sur les palmarès, puis qu'un mois et demi, deux mois, trois mois, ben, tu veux plus l'écouter, t'es tanné.
Oui. Ben, j'espère que ce sera pas comme la toune qui dure, puis que tout le monde la fredonne 10-15 ans plus tard. J'espère.
Non, j'ai pas. Ça, la toune que tu fredonnes 10-15 ans plus tard, là, je regarde les Rangers, puis cette toune-là, elle s'appelle Panarin. Ça, c'est une toune que tu vas fredonner longtemps.
Ah, ça, c'est sûr.
Mais pas la toune Rampe.
Ben d'ailleurs, on a vu hier, Henrik Lundqvist sur l'écran. C'est une toune qu'on continue de chanter.
Ça, c'est une toune que les amateurs à New York adorent fredonner. Puis sais-tu quoi? Ça, c'est mérité.
Oui.
Ça, c'est mérité.
Oui.
Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous pour cet autre épisode de Bon Match. Merci à Pierre Gervais. Merci à Danny. On vous souhaite de passer du bon temps avec cette fin de saison dans la Ligue nationale qui est encore excitante. Et revenez-nous pour le prochain Bon Match. Bon Match!